Après Ganso, je vais passer le micro à Francis Sponge. L'autre jour, lorsque je vous ai annoncé cette séance, je vous ai dit que cette séance serait, après celle de la jeunesse, celle de la maîtrise. Il est probable que de tous les écrivains contemporains, ce mot s'applique plus qu'à n'importe qui, à Francis Sponge.
Le lézard. D'abord un petit argument. Ce petit texte, presque sans façon, montre peut-être comment l'esprit forme une allégorie, puis à volonté la résorbe. Plusieurs traits caractéristiques de l'objet surgissent d'abord, qui se développent et se tressent selon le mouvement spontané de l'esprit, pour conduire au thème, lequel, à peine énoncé, donne lieu à une courte réflexion apartée, d'où se délivre aussitôt, comme une simple évidence, le thème abstrait, au cours, vers la fin, de la formulation duquel s'opère la disparition automatique de l'objet. Lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin, c'est le jardin des générations présentes, celui du père et du fils. Il en sort un petit animal formidablement dessiné, comme un dragon chinois, brusque mais inoffensif, chacun le sait, et ça le rend bien sympathique. Un chef-d'œuvre de la bijouterie préhistorique, d'un métal entre le bronze vert et le vif argent, dont le ventre seul est fluide, se renfle comme la goutte de mercure. Chic. Un reptile à pattes. Est-ce un progrès ou une dégénérescence? Personne, petit sot, n'en sait rien. Petit saurien. Par ce mur, nous sommes donc bien mal enfermés. Si prisonniers que nous soyons, nous sommes encore à la merci de l'extérieur qui nous jette, nous expédie sous la porte ce petit poignard. À la fois comme une menace et comme une mauvaise plaisanterie. Ce petit poignard qui traverse notre esprit en se tortillant d'une façon assez baroque, dérisoirement. Arrêt brusque sur la pierre la plus chaude. Affût ou bien repose automatique. Il se prolonge. Profitons-en. Changeons de point de vue. Le lézard dans le monde des mots n'a pas pour rien ce zèle ou zède tortillard, et pas pour rien sa désinence en art comme fuyard, flemmard, musard, pandard, hagard. Il apparaît, disparaît, réapparaît, jamais familier pourtant, toujours un peu égaré, toujours cherchant furtivement sa route. Ce ne sont pas insinuations trop familières que celles-là, ni venimeuse, nulle malignité, aucun signe d'intelligence à l'homme. Une sorte de petite locomotive au pied, un petit train d'allégations hâtives, en grisaille, un peu monstrueuses, à la fois familières et saugrenues, qui circulent avec la précipitation fatale aux jouets mécaniques, faisant comme eux de brefs trajets à ras de terre, mais beaucoup moins maladroit, têtu, il ne va pas buter contre un meuble, le mur. Très silencieuse et souple, au contraire, il s'arrange toujours, lorsqu'il est à bout de course, d'arguments, de ressorts dialectiques, pour disparaître par quelque fente ou fissure de l'ouvrage de maçonnerie sur lequel il a accompli sa carrière. Il arrive qu'il laisse entre vos doigts le petit bout de sa queue. Une simple gamme chromatique, un simple arpège, une bonne surprise après tout, si elle fait d'abord un peu sauter le cœur, on reviendra près de cette pierre. Ou bien on l'aperçoit tout à coup, plaqué contre la muraille. Il était là, immobile, Il a dans sa seule silhouette, alors, quelque chose d'un peu redoutable. C'est son côté trop dessiné, son petit côté dragon ou poignard. Mais on se rassure aussitôt, il n'est pas du tout aimanté vers vous, comme sont les serpents. Il vous laisse, mieux que l'oiseau, le loisir de le contempler un peu. Il lui est naturel de s'arrêter ainsi, sur la pierre la plus chaude. Hésitation, anxiété, stupeur, délice de capou, affût, ennemi de la mouche au sol. On ne peut dire qu'il ne ferait pas de mal à une mouche puisqu'il s'en nourrit. Il faut bien se nourrir de quelque chose quand on est un petit bibelot ovipare, obligé d'assurer soi-même sa perpétuation. Comme le bougeoir, si par exemple, ou quelques petits bronzes sur la cheminée du docteur s'offraient un spasme, montrer sa brève contorsion spécifique. Il lance alors sa petite langue comme une flamme. Ce n'est pourtant pas du feu, ce ne sont pas des flammes qui sortent de sa bouche, mais bien une langue. Une langue très longue et fourchue, aussi vite rentrée que sortie, qui vibre du sentiment de son audace. Et pourquoi donc s'affectionnent-ils aux surfaces des ouvrages de maçonnerie? À cause de la blancheur éclatante et morne étendue de ces sortes de plages, laquelle attire à s'y poser les mouches, que guette et harponnent du bout de leur langue pointue. Le lézard suppose donc un ouvrage de maçonnerie ou quelques rochers par sa blancheur qui s'en rapproche, fort éclairé et chaud, et une faille de cette surface par où elle communique avec la, parlons bref, préhistoire, d'où le lézard salsive, obligé d'inventer ce mot. Et voici donc, car l'on ne saurait trop préciser ces choses, voici les conditions nécessaires et suffisantes. Pratiquement voici comment disposer les choses pour qu'à coup sûr apparaissent en lézard. D'abord, un quelconque ouvrage de maçonnerie, à la surface éclatante et assez fort chauffée par le soleil. Puis une faille dans cet ouvrage, par quoi sa surface communique avec l'ombre et la fraîcheur qui sont en son intérieur ou de l'autre côté. Une mouche de surcroît s'y pose, comme pour faire la preuve qu'aucun mouvement inquiétant n'est en vue depuis l'horizon, par cette faille, sur cette surface, apparaîtra alors un lézard, qui aussitôt gobe la mouche. Et maintenant, pourquoi ne pas être honnête a posteriori? Pourquoi ne pas tenter de comprendre? Pourquoi m'en tenir au poème, piège au lecteur et à moi-même? Tiens-je tellement à laisser un poème, un piège, et non plutôt à faire progresser d'un pas ou deux mon esprit? À quoi ressemble plus cette surface éclatante de la roche ou du môle de maçonnerie que j'évoquais tout à l'heure qu'à une page par un violent désir d'observation à y inscrire, éclairée et chauffée à blanc? Et voici donc dès lors comment transmuer les choses. Telles conditions se trouvant réunies, page, par un violent désir d'observation à y inscrire, éclairée et chauffée à blanc. Faille, par où elle communique avec l'ombre et la fraîcheur qui sont à l'intérieur de l'esprit, qu'un mot par surcroît s'y pose, ou plusieurs mots, sur cette page, par cette faille, ne pourra surgir qu'un, plusieurs points, aussitôt gobant tout précédent mot, un petit train de pensée grise, lequel circule ventre à terre et rentre volontiers dans les tunnels de l'esprit.